Eh bien, à la chronique économie avec Michel Poilevin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. On va parler de choses importantes. On va parler de gros sous. Et là, je parle d'argent et non pas d'alcool. Bon, excusez-moi, cette farce était facile à faire. Bonjour, Michel.
Bonjour, Denis Martin.
Alors, on parle donc aujourd'hui de la Fed aux États-Unis qui décide de laisser son taux au niveau actuel, de donc 3,75.
Oui, on l'avait annoncé la semaine dernière. Là, il y a une décision de la Fed qui a été prise en milieu de semaine dernière de laisser le taux au niveau actuel. Puis le taux d'intérêt aux États-Unis, c'est une fourchette de 3,5 à 3,75. Alors qu'au Canada, c'est un chiffre. Là c'est une petite fourchette avec un écart de un quart de point. La décision, c'était 9-3. Là, il y a des gouverneurs de la Banque fédérale qui votent. Là, ils sont 12. Donc, 9-3 en faveur du maintien des taux à leur niveau actuel. Par contre, il y en a trois qui ont voté pour une hausse d'un quart de point. Ils n'ont pas majoritairement, donc le taux reste inchangé. Mais on voit qu'il y a quand même certaines personnes là, dans la Banque fédérale américaine là, qui aimeraient que les taux soient haussés. Pourquoi? L'inflation est depuis plusieurs mois en haut de la cible de 2 %. En mai, elle était à 4,2. Par contre, en juin, il y a une petite relâche à 3,5. Puis, ce qui arrive aux États-Unis en ce moment, puis un peu partout dans le monde, l'inflation est fortement influencée par la guerre en Iran. Puis, malheureusement, la guerre en Iran, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des semaines, ça va bien. Il y a d'autres semaines, ça repart. Ouais. Ça semble être une espèce de yo-yo géopolitique qui est difficile à suivre. Puis, l'inflation, on suit ça. Alors, la Fed avance un peu dans un brouillard, là, sans trop savoir où aller. Pour le moment, ils ont décidé de laisser les taux échanger. Et plusieurs s'attendent à ce qu'au moins une fois à l'automne, il y ait une hausse de taux là, si l'inflation persiste en haut de 3 %.
Ça risque de nuire aux chances d'élection là, des républicains lors des midterms hein, à l'automne. C'est tout ça continue de s'envenimer.
C'est une dimension importante. L'inflation, puis plus spécifiquement le prix de l'énergie. Là, les Américains sont très sensibles au prix qu'ils paient à la pompe. Et puis avec la guerre en Iran, bien, le prix à la pompe a augmenté beaucoup. Il a redescendu un peu. Au début de la guerre, il avait pas mal augmenté. Il a redescendu quand il y a eu des dépenses. Mais là, la semaine dernière, les hostilités repartaient. Trump a promis une espèce d'apocalypse. Là, il semble être revenu en arrière. Bon, sans trop de surprise. Puis en ce moment, on est dans une période calme. Pour combien de temps ça va être à suivre? On espère que ça va durer. Là, mais...
C'est à suivre de jour en jour, Michel. avec le président présentement aux États-Unis, les choses vont d'un côté ou de l'autre, de tous les bords, tous les sens. Et puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut ça.
Effectivement,
Il est difficile à suivre. Bon, il y a quand même aussi quelque chose qui le concerne et qui nous concerne, nous. C'est qu'il y a 25 États démocrates. J'en ai parlé dans les unes tout à l'heure. Non, j'ai pas le temps d'en parler dans les unes tout à l'heure. Les États démocrates qui contestent juridiquement les droits de douane de l'administration Trump.
Oui, en fait, les 25 États, les manchettes des journaux, on disait 25 États démocrates, c'est 23 démocrates et 2 républicains qui sont le Vermont. Je l'avais noté ici, le Vermont puis le Nevada.
Oui.
Qui sont
le Vermont est démocrate, je pensais que c'était... Et républicain, je pensais qu'il était démocrate. Ah ben. Pas grave, on va leur vérifier pendant que...
Non, mais il faut faire attention, puis là, je ne vais pas les donner exact, mais il y a les sénateurs, puis ça doit être les gouverneurs d'État. Donc, c'est possible que les sénateurs du Vermont soient démocrates, mais que le gouverneur soit républicain. Okay. Ça, c'est possible. Là. C'est, d'après moi, c'est ce qui expliquerait... la petite imprécision.
Oui, gouverneur, oui.
Oui, alors on confirme que le gouverneur effectivement est républicain, c'est bon.
Phil Scott.
Exact.
Ouais.
Puis les deux sénateurs sont probablement démocrates, là.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on conteste juridiquement? L'administration Trump a imposé à la fin juillet des tarifs de 10 à variant 10 et 12,5% contre les pays qui, en guillemets, ne luttent pas suffisamment contre le travail des enfants, notamment dans les produits qu'ils importent là, dans leur chaîne d'approvisionnement. Alors, pour expliquer un petit peu ce qui a mené à cette contestation-là. Souvenez-vous, en avril 25, le gouvernement Trump, à grande pompe, avait annoncé des tarifs réciproques sur à peu près tous les pays dans le monde. Et puis en février 26, la Cour suprême a décidé d'annuler ces tarifs-là, les jugeant illégaux. Alors, suite à la décision de la Cour suprême en février dernier, l'administration Trump va imposer des tarifs temporaires pendant 5 mois. Mais après 5 mois, ces tarifs-là disparaissaient. L'échéance de ces tarifs temporaires, c'était à la fin juillet. Et donc, pour maintenir la politique tarifaire que le président aime tant, on a imposé ces nouveaux droits. La raison officielle, c'est l'incapacité, je cite, là, l'incapacité de ces pays, les pays visés, là, ils sont entre 60 et 80. J'ai vu un article qui disait 60, l'autre 80. Donc, c'est un grand nombre de pays. Ce sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Puis va revenir sur certains de ces pays. Donc, la raison principale, l'incapacité à adopter et à faire respecter efficacement une interdiction visant l'importation de biens produits grâce au travail forcé. Alors, la loi invoquée par l'administration Trump pour imposer ces tarifs à la fin juillet, c'était l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974 qui permet de sanctionner les pratiques commerciales qui sont jugées déloyales. Donc, si on importe des biens qui ont été produits par des enfants, l'administration Trump dit, ben nous, on combat ça. Si les autres pays ne le font pas, c'est déloyal. Mais disons qu'ils ratissent large. C'est difficile à croire qu'il y a autant de pays qui laissent faire le travail des enfants. Là.
Ah, mon Dieu, oui. Je pense qu'on peut regarder froidement et se dire, bon, ben écoute, M. Trump cherchait des excuses pour mettre des tarifs.
Exactement. Donc, c'est quoi ces tarifs? 10 % pour les pays qui ont des mesures en place, mais jugées insuffisantes. Donc, le Canada, nous, on est là-dedans, le Mexique, le Royaume-Uni. Donc, ça ne semble pas être les pays les plus bandits de la planète. Puis 12,5, ça, c'est certain, il y en a d'autres à 10 %, puis la plupart des autres sont à 12,5 %. Il y a un grand nombre de pays européens. Là. Les pays visés regroupent 99 % des importations américaines, mais ce ne sont pas tous les produits qui sont ciblés. Donc, on a ciblé seulement certains produits, j'imagine, pour donner une crédibilité à cette excuse-là. Là, si ça avait été des tarifs qui avaient ratissé large, ça aurait été plus facile à contester. Alors, on a ciblé certains produits. Pour le Canada, les produits ciblés ne sont pas inclus dans l'accord de libre-échange. Donc, on a quand même le respect de cet accord-là qui est encore là, même s'il n'a pas été renouvelé, là, il perdure jusqu'à son échéance. Donc, les 25 États américains, la plupart sont démocrates, Californie, New York, Hawaï, puis encore une fois, deux républicains. Donc, la plainte est déposée au Tribunal fédéral pour le commerce international. Là, l'acronyme, c'est CIT en anglais. Donc, qui est une instance juridique ou administrative au gouvernement américain qui juge sur la légalité de, par exemple, cette action du président Trump. Alors, puis, ils ont quand même, là, quand on regarde la contestation, ils ont quand même des bons arguments, là, parce qu'on peut trouver légitime de dire, bien, s'il y a des pays qui vraiment exploitent les enfants, soit directement ou par le biais d'importation, ces pays-là devraient être, en guillemets, punis par des tarifs. Mais la loi, la fameuse loi qui est invoquée, elle prévoit que il faut, lorsqu'on invoque cette loi-là, il faut citer dans l'invocation l'absence d'un mécanisme pour que les pays sanctionnés pourraient adopter qui mettrait fin aux droits de douane. C'est-à-dire que si tu exploites indirectement les enfants, mais là, il faudrait dire, bien là, si le pays fait telle ou telle chose, on va juger que c'est suffisant, puis on annule le droit de douane. Il n'y a aucun mécanisme comme ça, ce qui est contraire à la loi. Donc, ça, c'est le premier argument des États contestataires. Puis le deuxième, c'est que le même notre pauvre M. Greer, là, qui est en charge du commerce international aux États-Unis, il a dit que la procédure annoncée, je pense qu'elle n'a pas été très habile. Là, il y a eu une procédure pour rétablir les droits de douane, puis il n'a fait aucune mention dans son annonce du travail forcé. C'est un peu comme s'il avait invoqué ça après. Là. Donc, un peu comme vous le disiez, c'est vraiment comme une excuse. Là, Et puis même dans son annonce, il a dit que ces tarifs, nouveaux tarifs, étaient imposés pour assurer la continuité avec les droits de douane mis en place par le gouvernement, puis annulés par la Cour suprême. Alors, donc je pense que l'annonce n'a pas été très, très habile, puis ça a ouvert la porte où ça. Plus ouvert la porte à la contestation là, par les États. Ça, donc, ça va être à suivre. Là. Donc, ça serait intéressant là, si c'était jugé illégal, montrer un peu que le président Trump n'a pas tous les pouvoirs, puis il y a quand même un système de justice aux États-Unis qui parfois peut aller dans le bon sens, là, puis s'assurer que les lois américaines sont respectées.
Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, c'est une saga hein, à suivre parce que, bon, on lui dit non, il essaie d'une autre façon, mais bon, à suivre. Ouais, et puis surtout qu'avec les élections de mi-mandat qui s'en viennent à l'automne, présentement, les sondages disent que les Républicains vont perdre beaucoup de plumes, ce qui ferait qu'ils ne seraient peut-être pas capables de contrôler la Chambre des représentants. Et puis peut-être ça va être plus difficile pour lui d'avancer des choses comme ça. Puis,
c'est ça.
Ouais, on verra, on verra.
Peut-être le Sénat, là. En même temps, je pense que c'est ce qui arrive du côté des démocrates. Il y a beaucoup de candidats démocrates qui sont relativement pas mal à gauche.
Ouais.
Il y a beaucoup d'Américains qui sont un peu allergiques à cette gauche-là. Là, quand Trump dit les traites de communisme, bon, évidemment, c'est une exagération.
Ouais, ouais, ouais.
Ça résonne dans la tête de plusieurs Américains. Ah, ouais. Donc, il faut espérer que les démocrates vont comme être habiles politiquement pour profiter de la situation.
Oui, un pays tout à fait divisé. Hein, c'est assez spécial. Ça vient comme ça ici aussi. On ne peut pas non plus regarder puis pas voir dans notre propre cours ce qui se passe. Michel Poitvin.
Non, c'est ça, mais en même temps, quand on est au Canada, on peut critiquer nos dirigeants, mais quand on se compare, on peut quand même se consoler.
Tout à fait. J'aime beaucoup quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Bonne semaine, Michel. À la semaine prochaine.
Merci.
Au revoir.
À la semaine prochaine, au revoir.